بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui, le samedi, le 29 du mois Jumad al-Thaniya de l'année 1447 de l'Hégire, correspondant au 20 décembre 2025. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala pour poursuivre ensemble notre étude de ce livre très bénéfique et très important pour tout musulman, tout âge confondu, qui est le livre de l'unicité. L'unicité, comme vous savez mes frères, c'est la chose la plus importante que tu dois connaître en islam. Il n'y a pas plus important que tawhid en islam. C'est ce qui fait de toi un musulman ou pas un musulman. Tawhid, c'est la science qui te permet de connaître Allah et de savoir que l'adoration est son droit exclusif. Tawhid, c'est la science qui te permet de vénérer Allah subhanahu wa ta'ala et de le glorifier comme il convient à sa grandeur et à sa majesté. C'est ce qui te permet de vénérer Allah subhanahu wa ta'ala et de le glorifier comme il convient à sa grandeur et sa majesté. Subhanahu wa ta'ala. C'est avec tawhid, avec cette science. C'est pour ça, c'est la science la plus importante en islam. Et malheureusement, dans la communauté, aujourd'hui, il y a beaucoup d'ignorance au sujet de cette science, la science de tawhid. Pourtant, elle est simple. Pour celui qui fournit les efforts nécessaires pour l'apprendre. Elle est simple. Pourquoi elle est simple? Tout simplement parce que c'est une science qui concerne tous les musulmans sans exception. Le paysan, l'agriculteur, l'homme cultivé, l'homme qui a étudié, l'homme analphabète, illettré, tout le monde est concerné par cette science. Cela veut dire qu'elle est à la portée de toute personne, quel que soit son niveau intellectuel. Mais pourquoi beaucoup de musulmans ignorent beaucoup de points concernant cette science? Ceci est dû principalement à la négligence et au manque d'intérêt qu'ils accordent à leur religion. Pourtant, cette religion, si jamais tu t'y accroches, ça sera la cause, on est d'accord que c'est la cause de ta sauvegarde dans l'au-delà. Lakin, c'est aussi la cause de ton bonheur dans ce bas monde. Les hommes les plus heureux, les plus épanouis, les plus comblés, c'est pas ceux qui ont le plus d'argent. Ça, tu le penses quand t'es pauvre. Tu penses que le bonheur crée, que la richesse crée le bonheur quand t'as pas l'argent. Tu veux l'argent. Lakin, quand t'as l'argent, en réalité, tu réalises que t'as pas le bonheur. Le bonheur, c'est quelque chose dans le cœur. C'est pas dans les poches. Né sur les comptes bancaires. T'as besoin d'argent, comme nous tous, pour manger, pour boire, et pour tes autres besoins mondains. Mais l'argent ne crée pas le bonheur. Le bonheur, en réalité, c'est dans la connaissance de celui qui t'a créé et dans ton attachement à ta religion. Ça, c'est une cause de bonheur dans le bas monde et dans l'au-delà. Car il n'y a pas de sauvegarde espérée sans la religion. Le mécréant, toute catégorie de mécréance confondue, sera vouée pour l'éternité à l'enfer. C'est pas 1000 ans ou 1 milliard d'années ou 1 billion d'années, c'est l'éternité. C'est ça la vraie perte qu'Allah a appelé la vraie perdition. Et c'est cette catégorie de gens qui sont les vrais perdants. Le perdant, c'est pas celui qui a échoué dans une affaire commerciale. C'est pas celui qui a perdu de l'argent. C'est pas celui qui a eu un problème de santé. Le vrai perdant, c'est celui qui a perdu son âme dans l'au-delà. Et par conséquence, qui a perdu toute sa famille. Car celui qui est en enfer, il sera pas réuni avec sa famille. Même s'ils sont tous en enfer. Chacun est dans son monde. Et s'ils sont eux au paradis, bien évidemment, ils seront pas réunis. Donc il sera pas réuni avec sa famille dans tous les cas. C'est pour ça que Allah exprime ça en une phrase, un verset. قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. Dis, Allah dit à son prophète, dis-leur à ceux qui écoutent parmi eux. Dis-leur, les vrais perdants, c'est ceux qui se sont perdus eux-mêmes ainsi que leur famille le jour de la résurrection. Ce sont ceux-là, c'est ça la vraie perdition et la vraie perte. C'est pour ça qu'il est très important qu'on prenne connaissance de l'importance de la religion dans notre vie et que ça devient la priorité des priorités d'apprendre ta religion. Rien au monde ne doit t'éloigner de ta religion. Malgré que tout est fait pour que tu t'éloignes de cette religion. Surtout la religion de vérité. Lakin, tu dois faire des efforts. Et celui qui fait des efforts, Allah l'aide. Il lui accorde son soutien. Donc, on s'est rendu à ce chapitre qui est d'une très très grande importance parce que c'est un fléau très répandu chez les gens qui s'affilient à la religion de l'islam. Ils se moquent de choses qui concernent la religion, tout en pensant, tout en minimisant cette chose extrêmement grave dans la religion, comme nous allons le constater à travers les textes que l'auteur va nous citer dans ce chapitre. Se moquer de quelque chose de la religion, ou de la religion, ou d'Allah subhanahu wa ta'ala, de ton créateur, ou du messager d'Allah alayhi salatu wa salam, c'est un acte extrêmement grave qui fait sortir de l'islam. Dans tous les cas. Sauf un seul. Lequel? Une question que je vous pose. La seule personne qui est excusée de proférer des moqueries ou des railleries au sujet de la religion, une seule. Un volontaire parmi les jeunes, le deuxième rang, tout à gauche, voilà, qui est là, tout à droite.
Celui qui
n'est
pas doué de raison.
Celui qui n'est pas doué de raison. Celui-là, il n'est pas concerné du tout par la législation. C'est pas quelqu'un qui est responsable. C'est une bonne réponse, lakin, celui-là en réalité ne rentre pas dans le calcul. Car il est pas, le discours religieux ne s'adresse même pas à lui. Et je leur ai demandé, est-ce que quelqu'un a marché sur les lunettes? Ils m'ont dit non. Taïf, une autre réponse.
Celui qui est contraint, vous voulez
dire ? Contraint. Ahsan. C'est ça la bonne réponse. C'est celui qui est sous la contrainte. C'est-à-dire, il est menacé par quelqu'un, il va le tuer si jamais il se moque pas de quelque chose de la religion. Il est sous la menace avec une arme et cette personne va exécuter sa menace. Dans ce cas-là, il est excusé. Donc, une seule catégorie, c'est ce qu'on appelle le mukrah, le contraint, sous la contrainte des menaces réelles qui seront exécutées. Donc, il a dit babu man hazala bi shay'in fihi dhikrullah aw al-Qur'an aw ar-Rasul. Et la règle générale que nous devons retenir, mes frères, peut-être qui résume ce chapitre. Si tu dois te moquer de quelque chose, la moquerie des se moquer d'un croyant, c'est quelque chose de haram. C'est pas autorisé de se moquer d'un croyant. Et c'est même pas autorisé de se moquer d'un être humain. Ou de se moquer d'une manière générale. Et bien évidemment, se moquer d'un croyant, c'est pire encore. Et se moquer d'un mécréant, d'une chose qu'il a dans sa création, ça revient à se moquer d'Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est lui qui l'a créé dans cet état. Et se moquer d'un croyant, c'est encore pire, car ça peut revenir à se moquer de sa religion, qui est une forme de mécréance. Lakin, si jamais tu dois te moquer, ne te moque surtout pas de quelque chose qui est en lien avec la religion. Il faut que tu apprennes que ta religion, elle est sacrée. C'est ta raison de vivre. Tu vis pour cette religion. Allah t'a créé pour cette religion. C'est ce qui existe de plus sacré et de plus important. Donc, ne te moque jamais et ne te moque surtout pas de la religion. Donc il a dit Babu man hazala bi shay'in fihi dhikrullah aw al-Qur'an aw ar-Rasul. Un chapitre au sujet de celui qui se moque de quelque chose dans laquelle il y a l'évocation d'Allah ou al-Qur'an ou le messager d'Allah alayhi salatu wa salam. Ce qu'il veut par ce chapitre rahimahullah, il veut nous démontrer le jugement de celui qui se moque de quelque chose qui est en lien avec la religion ou avec Allah subhanahu wa ta'ala, ou avec le messager, alayhi salatu wa salam, et que cet individu sort de l'islam à l'unanimité entre les hommes de science. Comme bien même c'est juste pour rigoler, ou pour plaisanter, ou pour blaguer, ou passer le temps, s'amuser, même dans ces cas-là, il sort de la religion. Car ça comporte Et cette moquerie, en réalité, ça revient à prendre à la légère l'aspect, de prendre à la légère, si c'est vis-à-vis du messager, son message avec lequel il a été envoyé. Et si c'est vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça revient à prendre à la légère, Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça s'oppose avec la vénération qui est l'essence même de la foi. Car celui qui fait ça, en général, il n'y a pas de foi, ou sa foi s'est annulée avec cet acte ou avec cette parole. Taïb. Cheikh Saadi, rahimallah, dans son explication de ce chapitre, vous savez que Cheikh Saadi, son explication, c'est une des plus courtes que je connais. Il résume l'essentiel du chapitre en quelques phrases. Il a dit, par rapport à ce chapitre, il a dit car cette moquerie et cette raillerie s'opposent à la foi d'une manière complète, c'est-à-dire elle annule la foi. Et elle fait sortir de l'islam. Car la base et le fondement même de la foi en Allah et en ses livres et en son messager. C'est quoi la foi ? La foi, c'est la foi aux six piliers de la foi, ce qu'on appelle les six piliers de la foi. Al-iman billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa al-yawm al-akhir wa al-qadr khayrihi wa sharrihi. Donc si tu te moques des piliers de la foi, c'est que la personne n'a pas de foi en réalité. N'a pas de foi. Car il fait partie de la foi de vénérer Allah subhanahu wa ta'ala et de vénérer sa religion et de lui accorder la plus haute considération et la plus grande estime. Et même cette forme de mécréance qu'on vient de citer, qui est de se moquer d'Allah subhanahu wa ta'ala ou de sa religion ou de son messager, c'est pire encore que la simple mécréance. Pourquoi ? Il dit Cheikh Saadi, car ça comporte la mécréance et plus. Ça comporte la mécréance et plus. C'est pour ça que c'est encore plus grave que la mécréance d'un mécréant qui ne croit pas en Allah et qui dit Allah n'existe pas. Ça, c'est encore pire. Et Cheikh Ibn Baz également, dans son explication de ce chapitre, il a dit, dans ce chapitre, l'auteur, il a démontré le jugement de cette catégorie d'individus qui se moquent d'Allah subhanahu wa ta'ala ou de sa religion ou de son messager et qu'ils sont des apostats. si c'était des muslimines à la base. Ou cette moquerie, et ou c'est des mécréants à la base. Si c'était des muslimines à la base, avec cet acte, ils sortent de l'islam. Donc il doit renouveler son islam. Il doit prononcer une nouvelle fois l'attestation de foi pour redevenir musulman. Dans ce chapitre, l'auteur rahimallah a cité deux arguments, un verset et un hadith. Le verset, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sourate Tawba. Wa la in sa'altahum la yaquluna inna ma kunna nakhudu wa nal'ab. قل بالله وبآياته وقل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens approximatif de ce verset, et si tu les interroges, ils te diront, nous ne faisions que divaguer, que plaisanter et jouer. Dis-leur, est-ce avec les verset d'Allah, vous plaisantez d'Allah et de ses versets et de son messager, ne vous excusez point, vous avez mécru après votre foi. Vous avez mécru après votre foi. Ici, il est très important de remarquer dans ce verset, il est très important, yani le hadith, il explique le verset. Car le verset a été révélé après ce qui s'est passé, yani, ce qui est relaté dans le hadith. Donc, le hadith est une explication de ce verset. C'est pour ça, mes frères, le Coran, nous le comprenons à la lumière des autres versets de le Coran. Et ça, c'est la meilleure compréhension que nous pouvons avoir de le Coran. Et ensuite, à la lumière de ce qui est rapporté de notre prophète, alayhi salatu wassalam. Car son rôle principal, le rôle principal du messager, c'est de clarifier aux gens ce qui leur a été révélé. Et si on ne trouve pas, dans le Coran, ni dans la Sunna, on revient à ce que les compagnons ont dit au sujet du verset. Et si nous ne trouvons pas, nous revenons aux autres savants qui sont venus après eux. C'est comme ça qu'on comprend le Coran. طيب est-ce qu'il est voulu par se moquer du messager ici, c'est pas seulement se moquer du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est se moquer de tout messager d'Allah. C'est pour ça qu'il a dit Awir Rasoul, et même dans le verset wa rasouli, combien même ça a été révélé par rapport à ceux qui se sont moqués du prophète alayhi salatu wa sallam. Pourtant, c'est des gens qui sont sortis avec lui vers pour participer dans la bataille de Tabouk. C'est des gens qui sont sortis avec le prophète alayhi salam pour combattre les Romains, la plus grande puissance ou une des deux plus grandes puissances de l'époque. Pourtant, cette moquerie, selon le verset, ils sont sortis de l'islam. Allah a dit, ne vous excusez pas. Vous avez mécru après votre foi. C'est-à-dire qu'ils étaient croyants avant de prononcer ces paroles avec lesquelles ils sont sortis de l'islam. Et une partie d'entre eux sont revenus dans l'islam et les autres sont morts mécréants. C'est-à-dire, pendant le vivant, de l'individu, quel que soit le péché qu'il a commis, du moment qu'il revient vers Allah, Allah il accepte son repentir. Le problème c'est de mourir dans cet état. Lakin, celui qui se repent, Allah lui pardonne, quel que soit le péché. Le frère à l'arrière. Allah, je suis fatigué. Taïf. Et ensuite, il a cité Qala an ibn Umara. On va pas s'attarder sur le verset, Léanna, son explication, elle est dans le hadith. Et donc, avant de passer, ce qu'on doit retenir de ce verset, premièrement, c'est que celui qui se moque de quelque chose qui est en lien avec la religion, que ce soit d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou de son messager, ou de ses législations, se moquer d'une sunna, par exemple, se moquer de la barbe, se moquer de l'habit, du croyant, tout ça c'est des choses graves. Ou des choses qui peuvent arriver même entre des gens qui suivent la sunna. Par exemple, dans le voyage, ils se moquent de celui qui est désigné comme émir du voyage. Et contre ce point, il y a eu une mise en garde de Cheikh Zayd, qu'Allah lui fasse miséricorde, par rapport à des frères parmi ses élèves qui sont sortis dans un voyage. Ils ont désigné un comme émir dans le voyage, chose qui est une sunna. Et c'est des machaïrs qui sont très connus aujourd'hui. Et ils ont commencé à... Ils ont dit, on va se rebeller contre le gouverneur. On va s'insurger contre notre gouverneur. Yani, ils désignaient par le gouverneur l'émir du voyage. Et quand ils ont rapporté ça à le cheikh, ils lui ont demandé son avis. Il leur a dit, c'est très dangereux. Il ne faut pas se moquer avec quelque chose, car ça, c'est une sunna. C'est le prophète Al-Sassim qui nous a enseigné d'agir de cette manière dans le voyage. Donc ça c'est le premier point, le messager, c'est tout messager, que ce soit Isa alayhi salam, Moussa, Ibrahim, Nuh, tout messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah leur a dit, ne vous excusez pas. C'est-à-dire les excuses ne sont pas profitables de dire nous, mais on plaisantait seulement, on voulait seulement passer le temps, on s'ennuyait, donc on voulait juste, yani, faire des blagues ou là des choses comme ça. Ça, c'est des excuses qui ne sont pas valables. Et ils ont quand même le statut de la mécréance ou l'iyadu billah. Donc, le devoir, c'est de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, vers sa religion. Ensuite, il a cité Hadith ibn Umar. Ce Hadith, il a été rapporté par ibn Umar, Muhammad ibn Ka'b et Zayd ibn Aslam et Qatada. Tous ont rapporté ce Hadith, lakin avec des narrations différentes. Tayyib. أنه قال رجل في غزوة تبوك أن ما دي lors de la bataille de Tabuk que j'ai mentionné tout à l'heure. Tabuk, mes frères, Tabuk c'est une ville aujourd'hui en Arabie Saoudite. Avant, yani, c'était vers c'était en dehors de la yani, pas forcément dans la péninsule arabique. Lakin Tabuk, c'est une ville qui est connue aujourd'hui, qui était gouvernée par les Romains. Comme toute la Cham, la Syrie, la Jordanie, c'était gouverné par les Romains. Taïb. Et c'est la dernière bataille dans laquelle a participé le prophète alayhi salam. C'est la dernière bataille dans laquelle il a participé. La bataille de Tabuk. Ils sont sortis. Et cette bataille a eu lieu l'année 9 de l'Hégire. Exactement dans le 6 du mois Rajab, l'année 9. Et le prophète A.S. est décédé après Yanni, l'année 11, début de l'année 11. Et le prophète A.S. après son retour de l'embargo que les croyants ont appliqué sur les gens de Taif, après ce retour, ils sont sortis pour combattre les Romains. Et le prophète A.S. à chaque fois qu'il sortait pour combattre des ennemis, il ne donnait pas sa vraie destination. Mais là, il a donné la vraie destination d'une manière claire. Il cachait sa destination. Et ça, ça fait partie des stratagèmes de la guerre. Là, il a mentionné la destination, car ça, c'est une sortie qui comporte beaucoup de périples et dangers et risques. Car c'est une année dans laquelle les croyants et les musulmans ont été touchés par une grande pauvreté. Une année de sécheresse et de grande pauvreté. C'est pour ça l'armée qui est sortie, on l'appelle l'armée Jaishul Usra. La difficulté. Ils sont sortis dans une grande difficulté. Et ça a dévoilé beaucoup d'hypocrites qui ne sont pas sortis. Et des vrais croyants qui ne sont pas sortis, pas par hypocrisie, mais par paresse. À qui Allah a accordé le repentir par la suite, à leur tête, Ka'b ibn Malik, radiyallahu anhu. Et les croyants, le prophète alayhi salam est sorti avec 30 000 soldats et 10 000 cheval. Yani, c'est une très très grande armée. Yani, ça, c'était pas l'armée des musulmans. En général, ça dépassait pas 10 000, 5 000, 3 000. Là, ils sont sortis en 3 000 parce qu'ils vont combattre, ils s'apprêtent à combattre la plus grande puissance sur Terre. Ou au moins une des deux grandes puissances sur Terre. Qui dominait, yani, une très, très, très grande partie de la Terre. Les Romains. Et les Romains sont sortis avec 40 000 soldats. Mais finalement, il n'y a pas eu de guerre, de bataille. Car les Romains ont eu peur. Ils ont fui. Ils ont fui. Et le prophète A.S. est resté sur place 20 jours pour marquer cette victoire sans guerre, sans bataille. Il est resté 20 jours sur place, durant lesquels il a raccourci la salate. Car il était considéré comme voyageur. Et il ne savait pas quand est-ce qu'il va retourner à Médine. Donc ça, c'est une bataille très très importante, dans laquelle il n'y a pas eu de combat. Lakin, c'était une grande victoire et ça a marqué un changement dans les règles de force de la terre. Tout le monde a su que les musulmans ou les arabes ont fait peur aux Romains. Et ça a été propagé. Et ça a été marqué par ces 20 jours que le prophète Hassan a passé sur place. Donc ça a changé les lois de la force ou là. Les plus forts de la planète, c'est plus les Romains. Ouais. Donc les musulmans sont devenus aussi une force qu'il fallait prendre en considération suite à cet événement. Donc c'est un événement, on peut dire aujourd'hui, international. Et sur le retour, sur le chemin de retour, un homme a dit, regardez ce qu'il a dit. Il a dit, « Ma ra'ayna mithla qurra'ina ha'ulai, arghabu butonan, wala akthabu alsunan, ولا أجبن عند اللقاء يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء الله أكبر. Regardez cette parole très grave que cet homme a prononcée. Il a dit, celui qui rapporte le hadith, c'est, يعني comme on a dit, Ibn Omar, Muhammad ibn Ka'b. Il a dit, nous n'avons jamais vu des gens au ventre plus gros. Au ventre, au gros ventre. Arghabu butonan. Wala akdaba al-sunan. Ni des gens aux langues plus mensongères. Wala ajbanu inda al-liqa. Et des gens plus peureux lors de la bataille. Que nos récitateurs. Qu'est-ce qu'il voulait par les récitateurs? C'est pas comme le récitateur d'aujourd'hui, celui qui a une belle voix, qui sait lire le Coran, ou celui qui mémorise le Coran. Aujourd'hui, c'est celui-là qu'on appelle le récitateur. Amma, à l'époque du prophète A.S., le récitateur, c'est celui qui a mémorisé le Coran. C'est un savant. C'est comme ce qu'on appelle aujourd'hui un homme de science, un savant. Le récitateur, c'est celui qui a mémorisé le Coran et qui a la science du Coran et la mise en pratique du Coran. C'est celui-là le récitateur. Avant l'apparition de ce phénomène où les gens ils mémorisent le Coran en entier, ils comprennent pas un mot du Coran et ils sont loin de sa mise en pratique. Ça, c'était pas connu chez les compagnons. Donc, regardez ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, nous n'avons pas vu des gens arghaba boutonan, qui ont les ventres les plus gros, yani qui, des gens qui, avec des gros ventres, qui ont de la gourmandise et insatiables, qui mangent trop. C'est comme ça qu'ils les ont décrivés. Voilà akdaba al-sunan. Et en plus, c'est des menteurs. Donc, c'est des gens qui sont attachés seulement à manger et boire. Et c'est des menteurs. Et en plus, c'est des peureux. Regardez, ils ont décrit les compagnons avec le prophète, alayhi salatu wasalam. Ils parlaient également du prophète, alayhi salatu wasalam. Avec une description complètement mensongère, qui est l'opposé de la réalité. Le prophète, alayhi salatu wasalam, son ventre, il était plat. Il n'avait pas un gros bide, le prophète, alayhi salatu wasalam. Il avait le ventre plat. Et la plupart des compagnons, ça me vient pas qui parmi les compagnons avait un peu de bide. Vous savez que Abu Huraira, il trouvait pas de quoi manger. Et en général, quand il mangeait une date ou la deux dates. À leur époque, c'était ça. Et c'était rare et exceptionnel quand il trouvait un plat copieux. Et c'est pas des gens qui ont la gourmandise, ils mangent pour manger. C'est des gens qui mangent pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est les hommes les plus loin du mensonge. Leur prophète leur a dit, le croyant ne ment pas. Et le prophète chez les kuffars de Quraysh, il était connu comme Sadiq, celui qui dit toujours la vérité. Ça c'est kuffar Quraysh, avant l'islam. Quand il parlait du prophète, il disait Sadiq al-Amin. Le véridique, digne de confiance. C'est comme ça qu'il était connu chez eux. Et, lors de la rencontre des ennemis, vous connaissez certainement comment était notre prophète, alayhi salatu wasalam, et comment étaient ses compagnons. Ils n'avaient peur de rien, ni de personne. Ils avaient peur uniquement d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et celui qui a peur d'Allah, il n'a peur de aucune créature. Et plus ta peur d'Allah augmente, moins ta peur des créatures. Et plus ta peur d'Allah subhanahu wa ta'ala augmente, moins tu auras peur des créatures. Moins tu auras peur des créatures. La peur de la créature, quand c'est pas une peur qu'on appelle la peur al-khawf tabai, la peur normale ou la peur normale, par exemple, d'avoir peur d'un animal dangereux, d'un homme avec une arme. Ça, c'est une peur naturelle. T'es pas blâmé d'avoir cette peur. Mais même face à cette peur naturelle, tu trouves que le croyant, il arrive à des degrés où il arrive à se contrôler, ni à ne pas paniquer dans une situation comme ça. Il y en a, il sait, que cette personne ou là cette créature ou là cet animal ne touchera pas un mal sauf si Allah l'a décrété. Tout est entre les mains d'Allah. Et c'est pour ça l'imam Ahmad, il est rapporté de lui, il a dit man khafa Allah khafathu jami'u makhluqatihi. Celui qui a peur d'Allah, non seulement lui n'a plus peur des créatures, mais les créatures auront peur de lui. Et combien de scène est rapporté, par exemple, d'un savant contemporain. On va pas aller chez les salafs. Un savant de notre époque, comme Cheikh Ibn Baz. Combien de scènes ont été rapportées que des shayatines ont eu très très peur rien qu'à entendre la voix de Cheikh Ibn Baz. Rien que d'entendre sa voix. Un sorcier, j'ai entendu une fois, un homme très pieux, un cheikh, qui était responsable d'un comité qui attrape les sorciers en Arabie Saoudite. Il a dit, on a eu affaire à un sorcier, on savait à 100% que c'est un sahir, un sorcier. Mais on n'a pas réussi à avoir les preuves comme quoi c'est un sahir. Car pour lui appliquer la sentence, il faut les preuves matérielles. C'est pas ce que je pense de lui. On ne juge pas les gens selon ce qu'on pense d'eux. Il nous faut des éléments matériels. Et il a dit, on a tout fait, on n'a pas réussi. Il était trop fort, un sahel trop fort, ça veut dire un très très grand mécréant. Parce qu'avec Shayatin, il n'y a pas de lien de parenté. Plus tu vas désobéir à Allah, plus tu vas faire de mécréance, plus tu auras de statut auprès d'eux. Donc si tu entends un sahel très connu, très célèbre, très fort, il fait des choses que les autres sorciers ne font pas, sache que c'est un très 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 grand mécréant. Il fait des crimes que tu peux même pas imaginer. Il leur ordonne d'avoir des relations avec les personnes de leur famille, de tuer des enfants, de les présenter comme des offrandes. Al-Muhim, des crimes incroyables. Sallallahu alayhi wa sallam. Et subhanallah, il a dit, on a essayé avec lui, on a essayé. Et un jour, subhanallah, ils étaient chez lui, ils cherchaient des éléments et ils n'arrivaient pas à voir quelque chose. Il a dit, ce jour-là, yani Cheikh Ibn Baz a commencé un cours dans une mosquée qui n'était pas très loin, dans la ville de Riyad. Ils ont laissé le micro ouvert. Et Cheikh, il a commencé à parler de Tawhid. Et Hada, dès qu'il a entendu la voix de Cheikh, il était en panique. Il a commencé à faire des aveux tout seul. Et ça, je l'ai entendu de cette personne qui était présente sur place. Il était en panique. Et bien évidemment, c'est pas lui. C'est Shayatin qui sont avec lui, qui l'aide. Et c'est pour ça que Nabi Islam a dit, Shayatin, quand il entend Ayat al-Kursi, il fuit. Quand il entend l'adhan, il fuit. Il est faible. Lakin sa force, c'est avec ceux qui sont loin d'Allah. Là, il est très fort. Lakin, si t'es avec Allah subhanahu wa ta'ala, il est très très faible. Il est impuissant. Et ça, je l'ai vu de mes propres yeux avec des gens, yani, normaux. Lakin, alhamdoulilah, ils sont sur la sunna, ils suivent le Coran et sunna avec la compréhension de salaf. Shaitan ne peut pas les toucher. Ça, je l'ai vu de mes propres yeux. Taïb.
Smahli, Oustad.
Aïe.
Nous allons devoir y aller, mais tu peux continuer le cours, Inch'Allah, nous écouterons.
Taïb. Taïb, ouais, il reste 10 minutes. Inch'Allah, là, je vais continuer. Barakallahu.
Inch'Allah.
Taïb. Donc, il a dit, Rahimallah, il a rapporté ce hadith que cet homme a prononcé cette parole. Il a prononcé cette parole et celui qui l'a rattrapé, c'est Auf ibn Malik radiyallahu anhu. Auf ibn Malik lui a dit kadhabta walakinaka munafiqun. Lui a dit t'as menti. Mais t'es un hypocrite. T'es un hypocrite parce que ceux qui prononcent ce genre de parole, ça ne peut être que des hypocrites. La foi s'oppose totalement à ce genre de propos. Le croyant ne peut jamais prononcer ce genre de parole à l'égard du prophète والسلام, et de ses nobles compagnons. On ne peut pas s'imaginer ça. Car comme on a vu, la foi elle est basée sur la vénération, sur ta'zim. Et la haute estime et la grande considération. La foi, elle est basée sur ça. Donc celui qui prononce ce genre de parole, celui-là, il n'a pas la foi, c'est un hypocrite. C'est pour ça qu'il lui a dit, t'as menti, en plus t'es un menteur. Tout ce que t'as dit n'est pas vrai. Mais t'es un hypocrite. Et il a juré par Allah qu'il allait informer le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Donc cet homme, on ne sait pas qui il est exactement. En tout cas, il y avait d'autres avec eux. Et ils ont eu le même jugement. Car même écouter ce genre de propos et les approuver, c'est comme celui qui les a prononcés. Il faut faire comme a fait Auf ibn Malik. Lui dire comme ça. T'es un menteur et l'arrêter et ne pas continuer à l'écouter, à passer le temps et à s'amuser en pensant que c'est juste pour blaguer, plaisanter. Ceux qui restent avec lui à l'écouter pendant qu'il profère ce genre de propos très graves à l'encontre du prophète d'Allah alayhi salatu wassalam, ou à l'encontre de la religion d'Allah, celui-là, il prend le même jugement que lui. Il lui a dit, je vais informer le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et quand il est arrivé, Auf radiyallahu anhu, pour informer le messager d'Allah, il a trouvé que le Coran a été déjà révélé au sujet de ce qui s'est passé. Il a trouvé que la révélation l'avait devancé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déjà reçu les versets au sujet de cette affaire dans lesquels il y a leur jugement et la description de ce qu'ils ont fait. Et cet homme est venu par la suite qui a proféré ce genre de, qui a proféré ces propos gravissimes, il est venu auprès du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, alors que le prophète, alayhi salatu wassalam, était sur sa monture, sur sa chamelle. Il lui a dit, ô messager d'Allah, nous ne faisions que divaguer, que plaisanter, et que rigoler, et ne discutant comme le font les voyageurs pour oublier la fatigue de la route, yani pour passer le temps. On se lassait, et on était fatigué, donc on voulait passer le temps, on l'a fait de cette manière. Comment ils l'ont fait? En se moquant du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et de ses compagnons. Ibn Umar a dit, je me souviens très bien l'avoir vu accroché à la sangle de la chamelle du prophète alayhi wa sallam. Et le prophète alayhi wa sallam, il continue à avancer sur son chemin. Il ne s'est pas arrêté. Et les pierres heurtent les pieds de cet homme. Il s'accrochait à la sangle de la chamelle. La chamelle a continué son trajet avec le prophète alayhi wa sallam dessus. Et cet homme, il s'accroche, il s'excuse, et les pierres, yani, frappaient ses pieds. Il disait, nous ne faisions que divaguer et plaisanter. Et le prophète, alayhi sallam, lui répondait uniquement et strictement avec le verset qu'Allah a révélé à ce sujet. Il lui disait, est-ce d'Allah, de ses versets et de son messager, que vous vous moquiez? Il ne le regardait même pas. Et ne disait rien de plus. Allahu Akbar. Et ne disait rien de plus. Donc ça, ce hadith nous permet de voir la gravité de se moquer. Et ceux qui vont dans les pays de l'islam, ils constatent que malheureusement, à cause de l'ignorance de ce jugement et de prendre la religion à la légère, beaucoup de gens tombent dans ce genre de choses. Nasallallahu salam al-afiyah. Ils se moquent de quelque chose de la religion ou de quelque chose de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. C'est quelque chose de très grave. Donc, pour terminer, nous allons résumer le jugement. Quel est le jugement de celui qui insulte Allah subhanahu wa ta'ala ou il insulte son messager, puis il se repent. Et dans ce hadith, avant de terminer, nous prenons, yani je vais vous lire les fawaïd que Cheikh l'imam Mohamed bin Abdul Wahhab a cité. Yani, d'abord, on a compris le jugement de se moquer de quelque chose qui fait partie de la religion. Et nous avons compris le sens du verset. Et que les excuses ne sont pas valables. Sauf l'excuse de la contrainte. De dire que tu voulais pas te moquer, mais c'était juste pour plaisanter, pour rigoler, pour passer le temps, ça c'est pas une excuse. Et la différence entre ceux qui se sont moqués et celui qui est venu rapporter les mêmes propos, lakin, pour informer le messager d'Allah. Celui-là, il n'a pas le même jugement. Car il n'a pas parlé avec la mécréance en voulant la mécréance, mais juste pour informer, il y avait un besoin d'informer. Et ça, c'est le cas de Auf ibn Malik, qu'Allah l'agré. Et aussi on prend de ce hadith la différence entre le pardon et la douceur qui est demandée en islam et la dureté en face envers les ennemis d'Allah. La dureté à sa place, c'est une sagesse. La dureté à sa place, c'est une sagesse. Et que ses excuses ne sont pas acceptées. Donc, quel est le jugement de celui qui insulte Allah ou il insulte son messager? Puis il se repent. Est-ce que son repentir est accepté ou pas? Les hommes de science ont divergé au sujet de cette question. Est-ce que le repentir est accepté ou pas? Il y a des hommes de science qui disent, d'abord ils sont d'accord, tous les hommes de science sont d'accord que celui qui s'est repenti, même après avoir insulté Allah subhanahu wa ta'ala et après avoir insulté son messager, Allah, il accepte son repentir dans l'au-delà. Mais on parle de son jugement dans ce bas monde. Est-ce qu'on doit lui appliquer les règles de l'apostasie, car c'est une apostasie? Ou non? Ou non? Donc le premier avis, c'est l'avis des savants malikites et des hanabila. Ils ont le même avis. Ils disent que celui-là, on n'accepte pas son repentir dans le bas-monde. On n'accepte pas son repentir dans le bas-monde. Et même dans le madhab al-Hanbali, ils disent, il sera, on va le traiter comme on traite un mécréant. C'est-à-dire, on lui applique la sentence de l'apostasie et on ne le lave pas et on ne fait pas la salat sur lui et on ne l'enterre pas dans le cimetière des muslimines. Et également les règles qui sont en lien avec l'héritage. S'il a des membres de la famille qui héritent de lui, qui sont muslimines, ils ne vont pas hériter de lui. Car le mécréant n'hérite pas du musulman. Et le musulman n'hérite pas du mécréant. Ça, c'est le premier avis. Le deuxième avis, ils disent, on accepte son repentir si jamais il se repent et qu'on voit sur lui les signes de la sincérité et qu'il est sincère et qu'il a vraiment regretté, il a profondément regretté son acte ou ses paroles, yani d'avoir insulté Allah subhanahu wa ta'ala ou insulté son messager alayhi salatu salam ou sa religion. Ils disent on accepte son repentir et on lui applique pas la sentence de l'apostasie. Et ça, c'est le madhab, c'est le choix de l'hanafiyya et de shafi'iyya. Et il y a un troisième avis, wallahu a'lam, qui semble être l'avis le plus juste dans cette question. Pourquoi ce deuxième avis déjà? Ces savants ont dit qu'on accepte son repentir, on lui applique pas les règles de l'apostasie. Ils ont dit car le mécréant, de base, qui insulte Allah et qui insulte son prophète et qui insulte la religion, quand il rentre en islam, tout le monde dit que son islam est accepté. Et il n'y a pas de divergence à ce sujet. Pourquoi on n'accepte pas le repentir de celui-là également? Même s'il était auparavant dans l'islam. Étant donné qu'il s'est repenti, on accepte son repentir. Lakin, comme je vous ai dit, wallahu a'lam, l'avis qui semble être le plus juste, c'est l'avis de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Et à son sujet, il a fait un livre de plusieurs volumes qu'il a intitulé As-Sarim al-Mashtou, As-Sarim al-Masloul, ala Shatim al-Rasoul. Donc, qui concerne le jugement de celui qui insulte le messager d'Allah alayhi salatu wasalam. Et il voit que, et son avis, ça a été choisi par plusieurs savants contemporains, comme Cheikh Ibn Uthaymin, Cheikh Ibn Baz, rahimahoullah. Ils disent que nous acceptons le repentir de celui qui a insulté Allah ou qui a insulté le messager d'Allah. Nous acceptons le repentir, sans repentir, du moment que nous voyons les signes de sa sincérité et qu'il a profondément regretté son acte ou ses propos. Nous acceptons le repentir. Mais il faut faire la différence entre le droit d'Allah et le droit de son messager. Le droit de son messager qui est le droit d'une créature. Et le droit d'Allah, nous savons tous dans les textes qu'il est basé sur le pardon et la clémence et la miséricorde. Et les droits des créatures ne sont pas basés sur ça. Ils sont basés sur les règlements de compte. C'est pour ça, celui qui a insulté Allah et qui s'est repenti en repentir sincère, nous acceptons son repentir et nous lui appliquons pas les règles de, yani, qui les règles de l'apostasie. Par contre, celui qui a insulté le prophète alayhi salatu wassalam, ils ont dit celui-là, on accepte son repentir, lakin on lui applique quand même la sentence. On lui applique la sentence car ça comporte le droit d'une créature. Son repentir, c'est entre lui et Allah. Mais le droit du messager, on ne peut pas se mettre à la place du prophète alayhi salam et lui pardonner. Si c'était pendant le vivant du prophète alayhi salam, c'est à lui de lui pardonner. Mais après sa mort, on doit appliquer cette sentence quand même. Comme bien même son repentir est est accepté. Et donc, il sera enterré dans le cimetière des musulmans, il sera lavé, placé dans un linceul, on fera salat sur lui, et ainsi de suite. Donc, la sentence lui sera appliquée comme un musulman. Comme un musulman. Et donc, ça, c'est l'avis de Cheikh l'Islam, Taymiyyah. Il a fait la différence entre le droit d'Allah et le droit du messager d'Allah. Alayhi salam. Et c'est pas parce que le droit du messager est plus élevé et plus grand que le droit d'Allah. Non, c'est pas pour cette raison. Le droit d'Allah est plus grand que tous les autres droits. Lakin, Allah nous a informé qu'il pardonne à tout le monde. Le prophète alayhi salam nous l'a pas dit. Et ça reste le droit du prophète alayhi salam. Si c'était pendant son vivant, na'am, c'est à lui de lui pardonner. Après sa mort, on applique la sentence dans le pays de l'islam. Et bien évidemment, les sentences sont appliquées par les juges qui jugent avec la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala et non pas par les individus, comme le font le Khawarij et Tikfiriyin. C'est appliqué par les gouverneurs et leurs délégués parmi les juges. Et la sentence lui sera appliquée quand même si il a insulté le messager d'Allah alayhi salam. Et Cheikh l'Islam, son livre, il a fait par rapport à un chrétien qui s'appelle Assaf, qui a insulté le prophète alayhi salam. Et subhanallah, ce chrétien, il fait partie des gens de la Syrie, de la région qui existe encore aujourd'hui avec le même nom, qui s'appelle Souaïda, dans laquelle il y avait les Alawites, comme l'ancien président de la Syrie, Bachar al-Assad, des Alawites, des mécréants. Et il s'est protégé auprès d'eux. Il a insulté le prophète, alayhi salam, ils l'ont protégé. Et Cheikh l'Islam est allé voir le gouverneur et avec d'autres hommes de science, ils lui ont expliqué la situation pour qu'il lui applique la sentence. Et ça a été fait. Et il a fait ce grand ouvrage très très bénéfique dans lequel il y a énormément de fawaïd. Lakin, il l'a fait principalement pour montrer avec les preuves irréfutables le jugement de celui qui insulte le prophète, alayhi salam. Et que malgré s'il se repent, on doit quand même lui appliquer la sentence comme un musulman, et non pas comme un kafir, étant donné qu'il s'est repenti. Car il y a le droit d'Allah et le droit de l'individu. Quand quelqu'un commet un péché, il y a toujours le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa religion, et il peut y avoir dans certains péchés le droit de la créature. Ce qui est pardonné, c'est le droit d'Allah. Mais la créature, si tu as fait du tort à une créature, tu dois lui demander pardon à elle également. Et ça ne suffit pas à un repentir sincère entre toi et Allah. Il faut que la créature te pardonne. C'est pour ça qu'ils ont fait la différence entre celui qui insulte Allah et celui qui insulte le messager d'Allah, alayhi salallahu alayhi salam. Et non pas parce que le droit du messager, alayhi salallahu alayhi salam, est plus grand que le droit d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Voilà mes frères, concernant ce chapitre et concernant ce qu'on peut citer ici. Donc on va terminer avec une question, inshallah, d'un frère sur votre radio qui dit un jour, à l'époque de l'ignorance, j'ai participé à un spectacle humoriste où parfois l'humoriste se moquait de la religion, mais je ne rigolais pas à ce genre de blagues et je détestais cela dans mon cœur. Est-ce quand même du kofr? Étant donné que tu détestais, ces choses dans lesquelles il y a de la moquerie au sujet de la religion, c'est pas une grande mécréance. Mais ça reste un grand péché de rester avec eux. L'obligation était de quitter. On parle d'une manière générale. Alors que dire, alhamdoulilah, aujourd'hui, inshallah, le frère ou la sœur, il a compris que on n'assiste pas déjà à des choses comme ça. On n'assiste pas à la base. Lakin, de rester dans un endroit où Allah est insulté, où le prophète alayhi salam est insulté, ça c'est un grand péché. Lakin, s'il approuve, ça c'est la mécréance. S'il approuve, c'est la mécréance. Hada huwa, par rapport à ça, wallahu a'lam. Subhanakallahumma hamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.